Chers amis, chers frères et sœurs, où que vous soyez confinés, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, son Fils, notre frère. Soyez les bienvenus à l'écoute de ce culte. Nous serons réunis par les ondes pour une période indéterminée. Alors que plus d'un tiers de la population mondiale est confinée, nous saluons tous nos amis francophones qui nous écoutent un peu partout dans le monde, en France d'outre-mer, en Inde, aux États-Unis, au Maroc, au Québec, en Roumanie, en Allemagne, partout où des frères et des sœurs en Christ sont en communion avec nous, vous n'êtes pas seuls, et grâce à vous, nous ne sommes pas seuls. En ce temps d'épidémie, le mot d'ordre est celui-ci: si vous voulez sauver des vies, restez chez vous. Alors que le confinement devient de plus en plus nécessaire et de plus en plus réglementé, comment rester libre? Comment rester fraternel sans pouvoir rencontrer nos frères? Comment incarner la confiance là où seules les relations virtuelles sont possibles? Nous essayons, avec plus ou moins de succès, de dialoguer à distance, de nous comprendre et de nous aimer fraternellement en prenant soin des plus touchés par cette situation inédite et révélatrice de notre fragilité humaine. Et pendant ce temps, le printemps surgit partout et la terre refleurit, comme pour nous dire, tout peut ressusciter. Pour ouvrir ce culte, écoutons ces versets d'espoir du chapitre 35 du prophète Ésaïe. Le désert et le pays aride s'égailleront. La steppe tressaillera d'allégresse et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera avec chants d'allégresse et de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux dont le cœur palpite: fortifiez-vous, soyez sans crainte. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet triomphera, car les eaux jailliront dans le désert, et des torrents dans la plaine aride. Le mirage se changera en étang, et la terre de la soif en fontaine d'eau. Dans le repaire où se couchaient les chacals, il y aura place pour les roseaux et les joncs. Nous nous présentons devant le Seigneur et nous lui remettons tout ce qui pourrait nous séparer de lui avec ce poème d'Alfred de Musset, un extrait de L'espoir en Dieu. Pourquoi donc, ô Maître suprême, as-tu créé le mal si grand que la raison, la vertu même s'épouvante en le voyant? Lorsque tant de choses sur terre proclament la divinité et semblent attester d'un Père l'amour, la force et la bonté, comment, sous la sainte lumière, voit-on des actes si hideux qu'ils font expirer la prière sur les lèvres du malheureux? Pourquoi, dans ton œuvre céleste, tant d'éléments si peu d'accord? À quoi bon le crime et la peste? Ô Dieu juste, pourquoi la mort? Ta pitié dut être profonde lorsqu'avec ses biens et ses maux, cet admirable et pauvre monde sortit en pleurant du chaos. Puisque tu voulais le soumettre aux douleurs dont il est rempli, tu n'aurais pas dû lui permettre de t'entrevoir dans l'infini. Pourquoi laisser notre misère rêver et deviner un Dieu? Le doute a désolé la terre. Nous en voyons trop ou trop peu. Si ta chétive créature est indigne de t'approcher, il fallait laisser la nature t'envelopper et te cacher. Il te resterait ta puissance et nous en sentirions les coups, mais le repos et l'ignorance auraient rendu nos maux plus doux. Si la souffrance et la prière n'atteignent pas ta majesté, garde ta grandeur solitaire, ferme à jamais l'immensité. Mais si nos angoisses mortelles jusqu'à toi peuvent parvenir, si dans les plaines éternelles parfois tu nous entends gémir, brise cette voûte profonde qui couvre la création, soulève les voiles du monde et montre-toi, Dieu, juste et bon. Tu n'apercevras sur la terre qu'un ardent amour de la foi et l'humanité tout entière se prosternera devant toi. Les larmes qui l'ont épuisée et qui ruissellent de ses yeux comme une légère rosée s'évanouiront dans les cieux. Tu n'entendras que tes louanges, qu'un concert de joie et d'amour, pareil à celui dont tes anges remplissent l'éternel séjour. Et dans cette hosanna suprême, tu verras, au bruit de nos chants, s'enfuir le doute et le blasphème, tandis que la mort elle-même y joindra ses accents. Voici comment Dieu manifeste sa présence auprès de nous, au milieu de nos doutes. Par l'entremise du prophète Ésaïe, il nous dit « Toi, que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à qui j'ai dit « Tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejette pas. N'aie pas peur, car je suis avec toi. Ne jette pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te rends fort, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Nous confessons ensemble notre foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ, malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Livre de Néhémie, chapitre 9, 19 à 21. Et toi, dans ta grande compassion, tu ne les as pas abandonnés au désert. La colonne de nuée n'a pas cessé de les conduire sur leur chemin le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit, éclairant le chemin qu'ils devaient suivre. Par ton souffle bienfaisant, tu leur as accordé du discernement. Tu n'as pas refusé ta manne à leur bouche, et tu leur as fourni de l'eau quand ils avaient soif. Pendant 40 ans, tu as pourvu à tous leurs besoins dans le désert. Ils n'ont manqué de rien. Leurs vêtements ne se sont pas usés et leurs pieds n'ont pas enflé. Le livre de Néhémie est un des rares livres avec celui d'Esdras à être écrit à la première personne dans la Bible. Ce style autobiographique rend compte d'une situation inédite dans l'histoire des Judéens. Leur temple est détruit. Il y a des brèches dans les murailles de Jérusalem et c'est un Perse qui met en œuvre la reconstruction. Néhémie vient de Suse pour rebâtir ce qui a été détruit. Bien sûr, il ne s'agit pas seulement de pierres et de mortiers, mais aussi de la conscience religieuse du peuple qui se retrouve dans une situation nouvelle où les envahisseurs sont aussi ceux qui rebâtissent, du jamais vu. Alors comment se repérer dans une situation inédite? Parmi les ruines, quel projet, quelle nouvelle façon de penser doit-on inventer dans ce contexte où tout change? Les exilés reviennent et avec eux, une culture abâtardie aux yeux de ceux qui sont restés dans le pays. Les hauts fonctionnaires, aux ordres de Cyrus, dirigent les réformes nécessaires et pourtant, ce sont eux aussi des descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans cette tension entre le connu et l'inconnu, entre l'ancien et le nouveau, Néhémie évoque le Dieu libérateur d'Israël, celui qui, même au cœur du désert, n'a pas abandonné son peuple. Le désert, lieu propice à la désorientation, lieu de solitude, lieu d'épreuve et d'abandon, mais aussi lieu de retraite spirituelle, lieu de proclamation des grands prophètes, lieu d'ermitage des pères de l'Église et des moines. Pourquoi le désert est-il si paradoxal? En quoi ce milieu peut-il illustrer la fidélité de Dieu pour son peuple? Du nomadisme d'Abraham en passant par les larmes de Jérémie jusqu'au lieu de tentation de la foi de Jésus, le désert évoque des situations très variées du croyant. D'autres lieux aussi, me direz-vous. La montagne, par exemple, de l'arche de Noé, échouée sur le mont Ararat, au don des tables de la loi jusqu'au sermon de Jésus, la montagne semble dire elle aussi quelque chose de la relation entre le croyant et son Dieu. La mer aussi, sans doute, de Noé à Jonas, en passant par Jésus pour arriver à Paul. Tous ces voyageurs illustrent, eux aussi, une facette de cette relation de foi en Dieu. Mais si la mer évoque la peur du péril et la montagne la volonté de Dieu, le désert, lui, évoque ce qui, en l'homme, cherche Dieu. Et c'est peut-être à cause de cette recherche qu'il est si important pour les croyants. Dans ce temps de carême, la figure du désert peut nous aider à comprendre comment un changement de notre espace-temps peut représenter une épreuve dans notre vie. Si Néhémie rappelle dans sa prière solennelle la situation du peuple dans le désert, c'est pour mieux prouver que même dans ce lieu où le peuple était désorienté jusqu'à vouloir se fabriquer un veau d'or, Dieu l'a compris et lui a pardonné. Nous sommes depuis 2 semaines dans une situation tout à fait inédite, puisque nous voyons notre espace de vie considérablement réduit et notre temps considérablement allongé. Un espace réduit parce que nous devons rester confinés au bureau ou à l'hôpital ou encore à notre domicile. Et un temps allongé parce que les horaires qui réglaient nos vies ont complètement changé. L'horaire du départ à l'école ou vers l'entreprise, le planning des activités, le jour des courses, le sabbat hebdomadaire, tout a changé et l'adaptation ne va pas de soi. Le télétravail révèle pour beaucoup une surcharge de travail dans des conditions d'isolement par rapport aux collègues. Parallèlement à cela, la proximité gênante avec des petits-enfants qui ne comprennent pas qu'il faut laisser papa et maman travailler alors qu'ils sont enfin à la maison tout à eux rend aussi difficile le travail. Les modes de communication à distance provoquent autant de malentendus qu'avant, sauf que nous n'avons pas le choix d'autres moyens comme l'entretien interpersonnel que nous avions avant, le face-à-face ou le déjeuner convivial qui généralement viennent à bout de beaucoup de frustration et d'incompréhension. Une grande solitude a envahi la vie de ceux qui habitent seuls et qui, d'habitude, vont retrouver les collègues, les amis, la famille. Parallèlement à cela, une trop grande proximité et promiscuité majorent les envies de solitude. Et en toile de fond de ces aménagements difficiles, un virus qui n'a pas de remède attend quiconque voudrait faire fi de toutes ces mesures de confinement. Le virus a envahi nos têtes, nos écrans, et nous donne comme choix de sortie la pharmacie ou la boulangerie. Bien sûr, nous résistons tous à notre manière, en faisant comme si nous pouvions continuer un peu comme avant, en essayant de transposer l'existant dans ces nouvelles modalités de vie. Comme les Israélites qui voulaient faire des réserves de manne alors que cette denrée le rendait impossible. Ou encore lorsqu'ils réclamaient de savoir de quoi serait fait demain alors qu'ils exploraient un territoire nouveau et désertique. Comme le peuple de Dieu, dans sa quête de liberté, nous faisons l'expérience du désert. Nous voudrions savoir jusqu'à quand cela durera, alors que par définition, personne ne peut encore le dire. Nous voudrions le confort de la vie d'avant, alors que ce n'est plus la vie d'avant. Une chose a changé. Un convive encombrant s'est installé chez nous, entre nous, et il reste invisible, mais présent. Angoisse pure, puisqu'on ne peut ni le voir, ni l'entendre, ni le sentir, et qu'il menace aveuglément les uns et les autres. Et pour l'instant, aucun médecin ne peut élever le serpent sur une pique comme Moïse le fit devant les serpents brûlants, car aucun vaccin n'est encore efficace. Il est bien naturel de vouloir revenir à la normalité. Rien de condamnable en cela. Mais puisque c'est impossible, que faire ? Quiconque a fait l'expérience du désert connaît la difficulté qui se présente alors pour tout novice, trouver de nouveaux repères. Bien sûr, il existe des boussoles, mais elles n'empêchent pas le changement profond que cet horizon à 360 degrés opère en nous. Les déserts ne sont pas vides, loin s'en faut, mais ils mettent à l'épreuve nos repères habituels. Dans le désert, il faut réapprendre à voir, à évaluer les distances, à déjouer les effets trompeurs de la lumière. Il faut réapprendre à entendre. Le cri d'un aigle à l'ouest indique parfois qu'il vole à l'est, et la voix familière des bédouins est parfois l'écho de voyageurs très lointains derrière les défilés rocheux. Il faut aussi accepter le silence, ne pas se fier aux températures, économiser l'eau même quand on se croit très prévoyant. Accepter de vivre dans la conscience de sa propre vulnérabilité. Confiner dans un espace d'où vouloir s'échapper seul serait une folie. Blaise Pascal, que les silences des espaces infinis effrayaient, parle dans ses pensées du divertissement auquel les hommes s'adonnent pour tromper la conscience de leur vulnérabilité. Il écrit « Quand je m'y suis mis quelquefois à considérer les diverses agitations des hommes et les périls et les peines où ils s'exposent, j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans sa chambre. Mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la cause de tous nos malheurs, j'ai voulu en découvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une effective, qui consiste dans le malheur naturel de notre condition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous consoler lorsque nous y pensons de près. Cesser de s'adonner au divertissement du monde, comme les appelle Pascal, nous exposerait donc à un face-à-face avec nous-mêmes désolant. Paul Valéry ne disait-il pas qu'un homme seul est toujours en mauvaise compagnie ? Pourtant, la solitude peut être bonne et agréable à condition qu'elle ait, au moins pour soi-même, une signification, qu'on comprenne la langue et qu'on en fixe la grammaire. Le désert oblige à vivre dans une autre langue, celle du silence. Le silence des voyageurs qui s'épuiseraient s'ils voulaient combler ce vide infini, le silence du ciel qui semble impassible et muet, le silence des animaux, dans ce lieu où tout est si hostile que pas un oiseau ne peut poser sa patte. Et ce silence est, au moins au début, oppressant comme celui que l'on subit quand on habite depuis peu dans un pays dont on n'a pas encore appris la langue. Je me souviens de cette expérience faite dans mon quartier de Sanaa au Yémen. Les premiers mois, tout semblait hostile, car incompréhensible. Non pour la raison qui argumente et calcule, mais pour la langue. Cette chose familière, maternelle, qui nous crée et constitue notre demeure bien plus que tous les lieux du monde. Je n'étais pas née de l'arabe. Nous sommes en train d'apprendre une autre langue, avec d'autres repères, à marche forcée, certes, mais nous apprenons. La deuxième semaine de confinement n'est déjà pas la même que la première. Elle est plus grave, elle a plus de poids, car nous la comprenons mieux. Chacun crée son espace et habite son lieu autrement. Qu'on se rassure, à force de le parcourir, le désert se laisse déchiffrer. Les pistes, d'abord invisibles, semblent presque familières. Les traces laissées par les animaux dans le sable donnent des indices d'une vie animale foisonnante. Et les silences des compagnons de route, eux-mêmes, finissent par laisser deviner leur état d'esprit profond sans qu'on les questionne. Aujourd'hui, dans notre désert du confinement, nous devons nous figurer que nous sommes comme ces longues caravanes qui traversent paisiblement le désert d'Arabie. Les pistes existent, les bivouacs sont nécessaires pour reprendre des forces. Certaines étapes sont plus difficiles que d'autres, il faut l'accepter. Les avancées, même encore invisibles, se font et nous nous adaptons tous à nous voir nous-mêmes vivre dans cette étrange vie de vulnérabilité et de frustration, mais dont nous faisons notre affaire un peu plus chaque jour. Et pour quelles raisons nous adaptons-nous ainsi? Par obligation? Sans doute pas seulement. Par amour de la vie, par amour de la liberté à laquelle nous aspirons, par amour de nos proches, par amour de ceux qui font le serment de soigner les autres, par amour de nos parents, de nos enfants et du prochain que Dieu nous donne de croiser dans la rue et qui partage la même inquiétude et le même amour. À chaque pas, le Dieu de la vie marche devant nous dans la nuée, cette nuée qui dit bien notre difficulté à savoir demain, mais qui nous conduit de jour et éclaire le chemin de notre nuit. Confiance, frères et sœurs, il y aura des oasis, des jours de peine et de fatigue, mais nous sortirons du désert. Et ce jour-là, le désert nous aura appris sa langue. Amen. Chers amis, dans ce temps de confinement, l'Oratoire du Louvre reste en contact avec vous. N'hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet oratoiredulouvre.fr. Vous y trouverez des méditations, des prières, des contenus pour les enfants et chaque semaine le culte en version audio et texte à imprimer. Vous pouvez aussi envoyer un message sur l'adresse mail suivante accueil@oratoiredulouvre.fr. Et demandez à être abonné à la newsletter hebdomadaire. Le temple et la maison presbytérale sont fermés au public jusqu'à nouvel ordre. Mais merci de rester solidaire de votre paroisse par vos dons que vous pouvez faire en ligne en toute sécurité sur le site oratoiredulouvre.fr. Pour terminer ce culte, je vous invite à la prière. Nous te prions, Seigneur, pour les malades qui traversent avec ceux qui les soignent les heures éprouvantes qui les séparent de la guérison. inspire-leur l'espoir nécessaire pour tenir sur ce chemin. Nous te prions pour les détenus, inquiets et coupés de leur famille, et pour qui cette période accroît encore un peu plus la peur d'être oubliés. Que leurs cris soient entendus et que leurs droits ne soient pas bafoués au nom de la sécurité sanitaire. Seigneur, nous voulons te prier pour tous ceux qui sont loin de leur famille à cause de leur travail et qui attendent dans les lieux étrangers le moment où ils pourront rentrer chez eux. Que la solitude ne les empêche pas de sentir la présence bienfaisante de leurs proches. Seigneur, nous te prions en ce dimanche pour toutes les personnes qui ne peuvent nous entendre et se sentent esseulées. Aide-nous à les rejoindre par les moyens les plus appropriés. Inspire-nous toute solidarité nouvelle. Nous te prions, Seigneur, pour tous les travailleurs du CASP qui en ce moment tentent de maintenir leur activité auprès des sans-abri, des personnes accueillies qui ont besoin de leur aide. Ensemble, reliés les uns aux autres, malgré les distances qui nous séparent, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, recevez la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de la vie vous bénit et vous garde.